Quelqu'un n'a pas le don des langues. Alors, t'apprendras l'anglais, Mais par contre, voyez-vous, il sera pas joyeux. Mais si vous vous dites, bon, il est peut-être pas très doué, mais en insistant, il va le savoir. Et donc, vous allez le brimer faussement. Non, vous allez le tirer vers le haut. Vous avez votre conjoint, votre épouse qui veut ça. Vous n'arrivez pas à le convaincre que c'est moins bien qu'autre chose. Il faut plus de temps. Tout ça, c'est... Je ne suis pas content. Eh bien là, par rapport au mal, la passion par rapport au mal, c'est l'aversion, c'est la fuite. Vous voulez faire telle activité ce soir? J'ai pas envie. Je veux pas. Je ne le fais pas. Quelqu'un va même aller dans une autre pièce. Va sortir de la maison, hein, clairement. C'est la fuite. C'est un mal. On le fuit. L'enfant, vous êtes là, vous lui présentez un plat. Il fait fuir le plat. Il jette le plat. Vous avez quelqu'un qui vous donne une mission, un dossier à étudier. Ou vous aimez votre métier, ou vous voulez un peu moins, vous avez votre dossier, vous êtes là, vous le mettez dans un coin. Vous partez du dossier, ouais, le dossier est là, votre travail est là, et vous partez. Vous n'avez pas envie de le faire. Ouais. Vous allez regarder un film. Vous allez regarder un site d'information, mais c'est tellement plus important. Vous fuyez. Procrastiner, c'est renvoyer au lendemain ce qu'on doit faire le jour même. C'est du latin, hein? Procras. Pro, c'est pour, et cras, c'est demain. Pour demain, c'est pour demain. Et vous voyez des choses, rentrez chez vous et regardez tout ce que vous avez mis pour demain. Pourquoi? Parce que c'est pas aimable. Vous aimez pas, c'est pas agréable. Et l'aversion et la fuite, elle évite quoi? Le contact avec le mal. Et c'est quoi le contact avec le mal? Eh bien, c'est la tristesse ou la douleur. Et vous avez des personnes, vous devez les convaincre que le mal qu'ils imaginent ou qu'ils vivent est inférieur au bien qui en viendra. Comme une piqûre. Comme un médicament. Mais si vous voulez, toute notre nature humaine est là. Pourquoi t'es triste? Et alors, d'où vient la névrose ou la psychose? Eh bien, c'est l'âme qui est emberlificotée en elle-même. La névrose, c'est une peur injustifiée. La cause est disproportionnée dans la névrose. Votre peur est disproportionnée par rapport à la cause. Vous ne supportez pas cette personne. Je ne supporte pas tes beaux-parents. Je ne supporte pas ta mère. Je ne supporte pas tel cousin. Je ne supporte pas machin. Je ne peux pas. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle vous apporte autant de tristesse que ça? Est-ce que cette personne vous fait tant de mal? Voyez? Et vous avez des névroses paranoïaques, des névroses, comment dire, des anxiétés, la saleté. Ça, c'est pas assez propre, tout ça. Mais t'es sale, quoi. Enfin, range tes affaires. Alors, c'est vrai, il y a des personnes qui sont pas du tout ordonnées, des personnes qui sont trop ordonnées. Et vous connaissez le mot maniaque. Alors, quand vous lâchez ça à quelqu'un, vous avez tout dit, quoi. Ça veut dire, c'est excessif. Tu es trop triste et tu souffres trop de cette situation de manque de rangement. Tu es maniaque. qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces mots? C'est est-ce que tu es heureux ou est-ce que tu es malheureux de ce qui se passe? Quand vous tombez amoureux, c'est la personne que vous aimez devient la personne sans défaut. Vous lui passez plein de choses et puis vous voulez rentrer en relation avec elle, vous lui envoyez des SMS, des machins de deux jours, c'est de la folie. Imaginez, il a existé un temps où il n'y avait pas de mail et de SMS. Et on envoyait des lettres. Victor Hugo a écrit plusieurs milliers de lettres. Et je connais des personnes c'était dans les années 90, il n'y avait pas encore les forfaits, tout ça, ça coûtait vraiment cher. Les SMS étaient comptés, ben ils s'envoyaient des lettres. 3 lettres par semaine. Bon, c'est des littéraires, hein, parce qu'il faut les pondre, hein. Alors, une autre passion importante par rapport à ça, hein, c'est l'espoir. C'est que le bien n'est pas là, mais on l'attend. Mais on l'attend positivement, c'est-à-dire qu'il va venir. On croit qu'il va venir, on va l'obtenir. On va l'obtenir. Et quand le bien n'est pas là, vous voyez, c'est très important l'espoir. L'espoir fait vivre. C'est amusant, hein, on retrouve tout. Le désespoir, c'est quand... Normalement, le vrai désespoir, hein, c'est par rapport à un bien qui nous semble inaccessible. On désespère. Et normalement, c'est par rapport à un mal. On n'a pas l'espoir d'éviter un mal. Hein. Ça devient un bien. Si vous voulez, éviter un mal est un bien, donc on joue sur les mots. Mais par rapport au mal, un mal qui vient et qui n'est pas encore là, on a peur. Et c'est la crainte, mais c'est aussi la peur. On a peur que le mal arrive. De quoi as-tu peur? Crier avant d'avoir mal, vous connaissez? Je vais rater cet entretien, je vais rater cet examen, ça va mal se passer, j'ai pas envie. On a peur. C'est la crainte. Et alors, ne pas avoir peur du mal, c'est de l'audace. Affronter le mal. Ça, c'est important. Affronter un mal. Les audacieux, c'est par rapport aux difficultés. Mais alors, qu'est-ce que la colère? Vous mettez entre le bien et le mal. Mais la colère, c'est une passion neutre qui vous aide aussi bien à atteindre le mal, à atteindre le bien qu'à éviter le mal. C'est un turbo, la colère. Et là, pour le coup, les animaux ont... Mais figurez-vous, les animaux, sans réflexion, vivent toutes ces passions. Le chien qui ne voit pas son maître, il couine, il pleure. Il est triste. Et quand un chien est très fixé sur son maître, sur l'odeur de son maître, sur la voix de son maître, il peut se laisser mourir de faim, car il n'a aucune confiance en celui qui va lui porter de la nourriture, autre que son maître. Et vous avez des psychologues pour animaux. Alors c'est impropre, parce qu'ils n'ont pas de psyché, ils n'ont pas d'âme. Mais ils ont un instinct. Et cet instinct, il est passionnel. Mais vous ne pouvez pas éduquer un enfant comme un animal, parce que l'enfant, lui, va dépasser ses passions. Et ça va être tellement plus compliqué que l'animal. Alors, posez-vous les questions. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis malheureux? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis joyeux? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai de l'espoir? C'est en permanence. Et quand vous êtes trop triste, eh bien arrêtez la machine. Vous êtes là et vous boudez. Alors, est-ce que le fait de bouder fait avancer les choses? Ça peut être une punition. Vous avez une personne qui vous manque de respect, qui vous insulte, et vous éloignez d'elle. Ah ben, elle boude. Non, bouder, c'est justement la défense excessive, ou c'est la fuite excessive. Mais on peut fuir quelqu'un qui nous fait du mal. Mais est-ce qu'il nous fait un grand mal au point qu'on se sépare de lui? Est-ce que c'est insupportable? Est-ce que c'est invivable? Est-ce qu'il n'y a pas de réconciliation possible? Est-ce qu'on ne peut pas en parler? C'est une tristesse absolue, quoi. Il n'y a rien à faire. C'est l'échec, le mal. Un jour, comme ça, il y a une personne qui dit à une autre, « Tu es la haine. » C'est la haine incarnée. Et bien, vous voyez, ce sont des mots qui dépassent notre pensée, ou ce sont des mots qui révèlent un manque d'intelligence, de prudence, de volonté, d'éviter l'erreur ou la fausseté ou le mensonge. Alors maintenant que je vous ai fait ça, ben, regardons ce que les philosophes disent. C'est le tableau, les définitions qui sont derrière. Donc là, les définitions. C'est la définition de la passion. Donc là, je vous l'ai présenté de manière dynamique, et maintenant on va être un peu plus dur. Plus scolaire. C'est un mouvement de l'appétit sensible, c'est-à-dire par rapport à notre corps. Je vous disais, hein, ça commence par le miam-miam, hein, ça commence par la nourriture, les passions. Vous ne pouvez pas vous empêcher de manger, c'est pas vrai. Imaginez, vous ne mangez pas pendant un jour. La tête que vous faites, vous êtes inquiet, quoi. Vous ne buvez pas pendant un jour. Vous ne buvez pas pendant deux jours. Anxieux, hein, et vous commencez à avoir chaud. Vous voyez, c'est la fièvre. Parce que bon, la température monte dans le corps, puisqu'il n'y a pas d'eau qui permet de... Et donc, c'est le bien, c'est l'eau. Et le mal, ben c'est pas boire. Et bien, voyez-vous, ceci peut se comprendre aussi de bien et de mots abstraits et spirituels. L'être aimé, le câlin, l'enfant, revoir son papa et sa maman. Mais chérie, t'as 40 ans, quoi. Oui, mais j'ai pas vu maman depuis un mois. D'abord, dis pas maman, dis ta mère. Et mamie. On n'aime pas ses grands-parents. Ah ben, bon, j'ai eu un grand-père qui était toujours bougon, tout ça, non, j'ai pas de relation particulièrement. Donc c'est pas un bonbon, là, c'est une personne humaine. C'est pas un verre d'eau. L'appétit concupiscible, c'est une réponse au bien ou au mal sensible, simplement appréhendé en tant que tel. C'est l'appétit concupiscible, c'est ce qu'on veut. L'objet, c'est le bien ou le mal sensible. Concupiscible, c'est ce qui se saisit plutôt que ce qu'on veut. Hein. C'est ce qui, vous voyez, quand vous coupez avec un couteau, l'objet, c'est concret. L'appétit irascible, c'est la réponse au bien ou au mal sensible en tant que difficile, ardu, à atteindre ou à éviter. L'irascible, c'est la colère. Et la colère va nous aider à atteindre un bien ou à éviter ou repousser un mal. Les passions concupiscibles, c'est une réponse à un bien sensible. L'amour est la réponse générale de l'appétit sensible à un bien sensible. C'est le principe sous-jacent du désir et de la joie, avec un E, c'est mieux. Le désir, c'est une réponse de l'appétit sensible à un bien sensible absent, mais qu'on recherche. La joie, c'est la réponse de l'appétit sensible à un bien sensible présent. Vous voyez, vous mangez un très très bon gâteau ou vous goûtez un excellent vin. Eh bien, vous avez de la joie. Vos papilles sont joyeuses. Réponse à un mal sensible, c'est la haine. Réponse générale de l'appétit sensible à un mal sensible, c'est le principe sous-jacent de l'aversion et de la douleur. L'aversion, ou fuite, c'est la réponse de l'appétit sensible à un mal sensible absent. La fuite, la peur. La douleur, c'est la réponse de l'appétit sensible à un mal présent. Vous avez froid. Et vous n'aimez pas le froid. Eh bien, les passions irascibles, c'est le bien difficile ou le mal. On va lire comme ça. L'espoir, réponse de l'appétit sensible à un bien sensible ardu considéré en tant que possible d'atteindre. Le désespoir, c'est une réponse de l'appétit sensible à un bien sensible ardu en tant qu'impossible d'atteindre. Et ce qui n'est pas proprement une passion, c'est la réponse à un mal ardu. C'est la crainte. La crainte, c'est la réponse de l'appétit sensible à un mal sensible ardu en tant qu'un mal à éviter. Et il n'est pas là. Il approche. C'est la crainte. L'audace, c'est la réponse de l'appétit sensible à un mal sensible ardu en tant que quelque chose d'ardu à surmonter et qui s'approche. La colère, c'est la réponse de l'appétit sensible à un mal sensible ardu présent en tant que quelque chose d'ardu à surmonter maintenant, et c'est une énergie supplémentaire. Alors, la petite astérisque qui vous... Et c'est un peu compliqué, mais un bien ardu en tant que présent n'est plus un bien difficile à atteindre. C'est simplement un bien présent, donc il produit de la joie. La joie, voyez-vous, c'est un bien ardu en tant que présent n'est plus un bien difficile à atteindre. C'est-à-dire que l'espoir devient... la joie n'est pas une passion au sens strict du terme. C'est-à-dire que c'est la fin de la passion, c'est l'épanouissement de la passion. C'était le côté un peu théorique, on laisse. Et ce qui m'intéresse, c'est récapituler ce que je viens de vous dire. Dans le tableau des passions, à nouveau. Alors, par rapport à un bien, c'est l'amour du bien lui-même. La haine, c'est le mal lui-même. Le désir, c'est le bien absent. L'aversion ou la fuite, c'est du mal encore absent aussi. La joie, c'est ce que le bien présent possédait. Quand vous êtes joyeux, c'est parce que vous êtes satisfait. Vous voyez, les Rolling Stones sont des pierres qui roulent, qui n'amassent pas mousse. Ils ne sont jamais contents. Vous voyez ? Donc il a beau chanter, jouer, amasser des sommes considérables, il n'est pas content. Vous voyez ? Et donc, I get no satisfaction. Je n'ai pas de satisfaction. Je suis insatiable. Voilà. Eh ben, dis donc. Tristesse, douleur et mal présent. Donc ça, c'est le tableau le meilleur, hein, par rapport à l'explication à l'arrière où vous laissez tomber. L'espoir, c'est le bien ardu, mais qu'on peut atteindre un jour ou l'autre. L'audace, c'est face à un mal menaçant, mais surmontable. Le désespoir, c'est une tristesse du bien qui semble inaccessible. La crainte, c'est face à un mal menaçant et qui nous semble insurmontable. La peur. Je vais rater mon bac. Et je vais me foutre à la scène. Bon, d'abord, tu vas peut-être pas rater ton bac. Hein, et deux, tu peux le repasser. Et trois, il y a 92% des gens qui l'ont. Voilà. Mais, vous voyez, la peur est mauvaise conseillère. La colère est plus face à un mal présent, mais on l'a mis au milieu quand même. On se met en colère parce qu'on n'atteint pas le bien qu'on veut. Analysez vos colères. Peut-être que vous ne vous mettez jamais en colère. Mais oui, mais la meilleure façon de désamorcer une colère, c'est au moment de la colère, à un moment un peu calme de la colère, dit, mais au fait, pourquoi suis-je en colère? Eh bien parce qu'on ne retrouve pas les clés. Bon, c'est une bonne raison. Mais de temps en temps, vous voyez, vous dites pourquoi je suis triste? Pourquoi? Alors quand on est joyeux, bon ben, pourquoi se poser la question quand on est joyeux? C'est pas extraordinaire. On est joyeux, on est joyeux. Ouais. Mais triste, il faut se méfier de la tristesse. Colère, colère et tristesse sont des passions dont il faut vraiment se méfier. Elles peuvent être immédiates et d'une réaction immédiate. Hein. Mais justement, on n'est pas primitif. Mais... Ah, lui, il est un peu primaire. Hein. C'est-à-dire qu'il vit les passions immédiatement. Alors, les tempéraments. Mais les tempéraments, c'est les grands tempéraments de la philosophie aussi. De nos jours, alors là, vous avez... la méthode, les méthodes, je ne sais plus trop quoi, les coachs vous mettent dans des cases, vous êtes réfléchi, spontané, machin, enfin, il y a des... Non, vous avez, on ne vous a jamais fait passer des... Vous êtes une personnalité IRSP. Ou PPST, ou machin, bidule. Si ça peut vous amuser. Mais un IRSP ne peut pas travailler avec un PPST. C'est curieux parce que pendant des siècles, on... Voilà, quoi. On a travaillé ensemble. Voilà. Tempérament. Le bilieux, celui qui se fait du souci, est plus triste. On l'appelle aussi le mélancolique. La trabilaire, la bile noire. Enfin, la bile est noire. Quand vous vomissez, vous voyez, c'est marron, la bile. Le mélancolique. Le sanguin. Un tempérament sanguin, c'est un sanguin. Donc, c'est quelqu'un qui est immédiat. Alors, pourquoi on distingue avec le nerveux? Parce que le nerveux, il peut être lui-même un peu de réaction immédiate, mais il se met en colère, le nerveux. Le sanguin, c'est celui qui peut être aussi... c'est l'actif aussi, là, un sanguin. Hein. Celui qui est plein de vitalité. Mais il peut ne pas être colérique. Vous voyez, il peut être, ne pas être destructeur, si vous voulez. Enfin, le nerveux, c'est... C'est beaucoup d'énergie dispersée. Et le lymphatique. Enfin, la bête noire de l'humanité. Seulement le lymphatique, le phlegmatique, il peut justement s'occuper de choses difficiles et longues qui ne vont pas satisfaire le nerveux ou le sanguin. Ah, mais je vais décortiquer ces statistiques, hein. Oui, mais il est calme, il fait les choses bien posément. Vous imaginez un nerveux, un sanguin qui est horloger? Il est là, avec les petites pièces, les petits machins. Voilà. Alors, vous pouvez acheter des livres pour savoir si vous êtes un dominant bilieux et récessif colérique. Vous voyez, il y a des inquiets colériques, mais ils sont plus inquiets que colériques. Et ça se mélange. Mais en général, ça se mélange par deux, hein, c'est pas. Et on essaye de faire des statistiques par rapport à vos réactions. Et donc, on mélange ces quatre personnalités avec machin, qu'on vous a peut-être déjà fait. On change de nom parce que c'est des anglo-saxons et qu'ils vendent leurs livres. Et bien, c'est important quand même. Pour eux, c'est un bien. Donc, ils ont le désir de changer le vocabulaire parce que du coup on ne reconnaît plus. Alors qu'est-ce qu'on va dire pour colère, pour peur, crainte, qu'est-ce qu'on va dire, de nouveau, s'il y a du novlangue, qu'est-ce qu'on peut dire, s'il y a du novlangue qui remplace des mots évidents, être optimiste ou positivé, vous voyez, c'est passé par carrefour. Donc, les péchés capitaux, l'orgueil, c'est-à-dire s'estimer au-dessus de ce qu'on est, et la vanité, c'est mettre sa joie, son bien, dans des choses qui n'en valent pas la peine. L'orgueil, c'est de s'estimer au-dessus de sa valeur. La vanité, c'est mettre de la valeur dans ce qui n'en a pas. L'orgueil, c'est se donner une valeur qu'on n'a pas. C'est proche, mais c'est un peu différent. L'avarice, c'est les liens. Vous voyez, vous avez des gens qui sont des accumulateurs. Ils veulent avoir... Moi, je suis avare, dans le sens où dès que je vois quelque chose sur le trottoir, je le prends. La peur de manquer... Dès que je vois un livre, je le prends. Vous avez vu un appartement d'avare. Vous dites, mais pourquoi il a tous ces livres? Ben, voilà. Alors pour moi, c'est un bien d'avoir un livre, parce que je peux trouver des choses dedans et tout ça, mais il y a quand même une petite névrose du côté de l'excès du nombre de livres et de l'intérêt des livres. Faites un tri, cher père. En tout cas, ne nous reprochez pas de faire une collection de bijoux ou de montres. Ah ben quand même, un livre, c'est plus intéressant qu'une montre. L'envie. Ah, l'envie, c'est quelque chose de terrible. L'envie, c'est être triste de ce que les autres possèdent. C'est un des péchés les plus pourris qui soient. Vous voyez ? L'avarice, c'est de posséder. Mais l'envieux, c'est celui qui va regarder dans le jardin de l'autre et qui va dire, c'est mieux chez l'autre que chez moi. Vous voyez ? Ça peut s'unir, hein ? L'envieux va accumuler des biens. Mais il ne sera pas satisfait parce qu'il envie ce qui est encore, qui n'est pas encore en sa possession. Le péché de Lucifer est un péché d'envie, pas un péché d'orgueil, ou uni à de l'orgueil, mais c'est surtout de l'envie. Pourquoi ? Et parce que Il voulait être Dieu. Et il ne pouvait pas. Il a essayé. Et il essaye encore. Hein. Quand il dit à Jésus, « Tous les royaumes du monde m'ont été donnés et je les donne à qui je veux. » D'abord, il ne les a pas. C'est pas vrai. Il n'en a pas toute la providence. Et je te les donne si tu m'adores. Et là, Jésus lui dit, on n'adore que Dieu. Mais actuellement, vous avez des hommes qui font des sacrifices, qui font de la sorcellerie, parce qu'ils veulent le pouvoir. Vous seriez étonné d'hommes politiques qui vont voir des sorcières ou des sorciers, qui font des sacrifices. Alors, quand c'est des coqs, quand c'est des chats, quand c'est des animaux, mais quand c'est des êtres humains, là, on rigole plus du tout. C'est-à-dire qu'on tue quelqu'un en l'honneur de Lucifer pour que Lucifer nous aide. On a prouvé qu'on était de son côté contre Dieu, et donc Lucifer devrait nous aider. Vous avez des gens qui font des sacrifices humains pour ça. La colère, donc la colère excessive est un péché capital. Mais la colère dans une réaction au mal, ou pour une énergie pour obtenir un bien, n'est pas un péché. C'est la colère excessive qui est un mal. La luxure, c'est la recherche du plaisir vénérien, du plaisir sexuel disproportionné. Voilà. Donc, vous avez un gars tranquille dans les années 1620, et il a 15 ans, il a 18 ans, voilà. Mais il n'est pas surexcité. Ouais. Il va à un moment donné, avoir des envies, des pulsions, bon. Mais le même gars, en 2017, comme il va avoir des films porno tous les deux jours, c'est l'explosion dans sa pauvre tête. Ça meuble sa mémoire, ça meuble son imagination et il déconne. C'est la luxure. Oui. Et bon, en soi, si vous voulez, ce sont des péchés par excès, mais celui qui, qui aime, comme pour reprendre ce que vous disait le couple, hein, celui qui aime que l'acte conjugal et l'acte sexuel soient posés, soient agréables et aillent jusqu'au bout et fasse attention au plaisir de l'un, au plaisir de l'autre, c'est pas de la luxure, c'est la nature humaine. Allez. Alors par puritanisme, on va considérer que le plaisir sexuel intense, dans son intensité, dans sa satisfaction, est un péché. Et ça, c'est faux. Par contre, le rechercher au point d'importuner son épouse ou son époux, ou au point d'aller voir des prostituées parce qu'on ne peut pas se gouverner, ah, c'est un défaut. En effet. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui ont des maladies et qui ont des besoins sensuels au-delà d'un normal. Donc, c'est une maladie. Et donc, avec un corps et un tempérament normal, vous devriez pouvoir vivre paisiblement. Le paresseux. Ah, c'est terrible, le paresseux.